Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du lundi. Alors que la 58e Biennale d'art de Venise s'est ouverte le 11 mai, plus vieille et plus grande manifestation internationale d'art contemporain. Rendez-vous à partir de 12h55 pour une géopolitique de l'art avec la galeriste Nathalie Obadia autour d'un livre sur le sujet où elle montre l'évolution des rapports de force sur ce marché. Mais d'abord, sur la plage abandonnée de Venise, coquillages et crustacés, qui l'eût cru, la française de la Biennale, c'est elle. La plasticienne vidéaste Laure Prouveau a investi depuis la mi-mai le pavillon français de la Biennale d'art avec une installation pieuvre. Lilloise, formée à Londres, lauréate en 2013 du Turner Prize, elle est représentée à Paris par la galerie Nathalie Obadia. Tiens, un lien entre notre première invitée et notre seconde invitée. Tout de suite, une grande table spéciale art contemporain à écouter jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Laure Prouveau.
Bonjour, merci.
May you live in interesting times. Ça, c'est le thème de cette 58e édition. C'est pas encore le titre de votre installation, on va y venir. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on vit une époque intéressante?
Oui, je crois. Je crois que beaucoup d'époques sont intéressantes. Surtout quand on est autour d'une belle grande table comme ça et qu'on peut discuter des idées, des points de vue. Oui, je crois qu'on est... C'est pas évident, mais c'est fascinant. Quoi. C'est une époque fascinante.
Il y a des choses qui vous inquiètent dans cette époque? Qui vous alertent?
Je crois, oui, comme tout le monde, mais il y a aussi une énorme... Il y a une sorte d'extase, de folie, de notre société qui, on veut tout vivre, on bouge, on veut se sentir, on veut se comprendre, on veut, et en même temps, il y a des clashs, quoi. Mais c'est, oui, pour moi, c'est une époque complètement fascinante.
Est-ce que vous sentez que cette époque, elle a aussi un besoin d'artistes pour la réinventer, pour la réimaginer, pour la rendre un peu plus folle encore?
Je crois qu'on a besoin, d'imagination, on a besoin de se laisser porter, flotter un peu. Parce qu'il y a beaucoup de tout ce qui est système et fact qui crée des divisions aussi. Donc un peu aussi laisser la force de l'humain d'avoir ce côté créatif et d'avoir l'humour que plein d'autres animaux n'ont pas. Donc, c'est des forces pour moi très très importantes de l'humain.
Cette installation à Venise, dans ce pavillon français, elle s'appelle, en français, « Vois ce bleu profond te fondre ». En anglais, « Deep Sea Blue Surrounding You ».
C-S-I-I. Donc, oui. Deep Sea, c'est aussi regarder en profondeur. Quoi. Donc, c'est un petit jeu de mots.
Avec la mer. Oui. Avec votre commissaire, Martha Kirsenbaum, vous avez eu l'idée ou l'envie de prendre la route sans trop savoir ce que vous alliez chercher, ni savoir ce que vous alliez trouver, mais en sachant où vous alliez. La destination, elle était fixée.
Mm-hmm. Oui, elle était fixée parce que c'était évident que c'était une invitation incroyable d'aller à Venise. Déjà, Venise, c'est une ville qui flotte. Une ville complètement incroyable dans sa conception, dans ce qu'elle est. Et donc, cette invitation de prendre corps dans ce pavillon qui a été créé au début du siècle, enfin, dernier. Donc, il y avait forcément, ça allait être sur ce voyage aussi bien, ce voyage pour moi aussi un retour culturellement aussi vers d'où je viens, vers la France, où j'ai grandi, mais aussi qui nous sommes, quels sont nos... Pour moi, c'était vraiment un voyage sur l'idée de la représentation et cette arrivée à Venise qui a aussi un retour dans le passé, quoi.
Ouais, donc vous aviez une destination, mais qui vous a conduit aussi vers une forme d'introspection collective et individuelle, de savoir quelles sont nos identités et quelle est la vôtre aujourd'hui aussi. Vous dites, en fait, vous êtes née en France, vous êtes lilloise, mais vous avez aussi des attaches familiales et vous en aviez en Grande-Bretagne. Vous avez étudié une bonne partie du temps à Londres, ouais. Aussi un peu en Belgique.
Oui,
voilà, donc vous êtes totalement européenne avec ce triangle d'or pour l'instant encore, qui est Londres, Paris et Anvers. Quelle rencontre vous avez fait sur cette route ?
Alors, ça a été vraiment, le départ était vraiment, allez, garder le projet d'une sorte de simplicité et que les choses puissent rentrer dedans. Donc, qu'il n'y ait pas forcément un storyboard et je travaille beaucoup avec la vidéo, donc beaucoup de narration, mais je voulais qu'il se nourrisse au fur et à mesure et garder cette légèreté qui est, quand on a un gros projet comme la Biennale de Venise, on a toujours tendance à, faut que je fasse ma plus grosse œuvre, le plus, et comment se libérer de ça, de la pression de cette opportunité, et de la faire grandir avec ce qui pouvait arriver pendant ces 9 mois. Donc on est parti de Nanterre dans une petite voiture, on a rencontré quelques personnes là-bas, et puis on était 6-16 tous coincés dans cette toute petite bagnole, et on est monté vers le nord parce que je suis de Roubaix, donc pour un peu aussi, moi, c'était un petit clin d'œil sur d'où je venais. Et là, on est arrivé dans un café où, par magie, il y avait un magicien là, qui faisait voler les tables, il y a des oiseaux qui sortaient des tableaux qui étaient accrochés, enfin, des choses un peu féeriques qui sont arrivées au fur et à mesure. Et donc, Kader nous a rejoints, on est de plus en plus dans cette voiture. On est passé à côté des terrils, il y avait une femme là qui volait, qui chantait comme le vent. Donc plein de choses qui sont comme ça arrivées un peu sur le voyage.
Et ça, ce film maintenant, il est dans la deuxième salle de l'exposition. Ouais. Il est précédé de quoi ? Il est suivi de quoi, ce road trip ?
Alors ce road trip, il y a un road trip physique qui est là-bas, bien sûr. Donc au niveau de l'installation, on a travaillé, arrivé à Venise. Donc c'était, on a fait Roubaix, après on est arrivé au... On a changé de voiture pour les chevaux, pour aller au palais du facteur cheval, où c'était vraiment l'idée du subconscient. On est rentré dans l'idée pure de créer. Pour moi, c'était vraiment ça. C'est cet homme qui avait ce désir de créer. Donc, à Venise, on a un peu essayé de recréer au niveau physique que l'audience. Cette idée très spacée aussi, donc l'audience passe sur le côté du pavillon, l'entrée se fait par l'arrière, un peu comme beaucoup de gens rentrent dans des... Moi, je suis un peu arrivée par l'arrière-porte pour Londres, où j'avais rien, il fallait que je me débrouille, et comment... Un peu, j'étais une immigrée d'une certaine façon là-bas, et comment on se crée notre façon de gérer cette culture, ou une nouvelle culture. Donc... L'idée d'arriver par l'arrière était assez importante pour moi. Donc on passe entre les arbres et tout ça. Et on arrive dans le sous-sol qui est rempli de terre, où là on a commencé à creuser pour aller chez les Anglais. On ne leur a pas dit. Donc il y a un tunnel qui se fait. On essaie de rester connecté. Et au-dessus, on monte par les escaliers. Et là, il y a une résine qui a fossilé plein tous les objets, les choses qui se sont passés sur notre chemin, un peu des objets en verre. Et là, on rentre un peu dans le corps de l'octopus, vraiment dans l'octopus, son main body, là, sa grosse poche. Elle est vide, il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. Donc pour moi, là, c'est l'endroit où on montrait le film, où le film n'est que des petits pixels comme ça qui se trimballe et qui essaie de nous interpeller ou d'avoir un échange avec nous, mais qu'en fait c'est dans les tentacules qu'il y a les cerveaux, donc c'est dans les tentacules qu'on sent vite, et c'est ces personnages que j'ai rencontrés, pour moi c'était aussi ce truc de très immédiat, quoi. On se touche, on se sent, on se pense, mais par contre on n'a pas de mémoire, un peu, c'est aussi le loop du film, c'est un film qui est en loop, donc il a oublié ce qu'il a déjà dit il y a une demi-heure, il se répète, quoi. Donc un peu l'octopus avait cette base qui englobait, qui était rentrée dans le pavillon comme ça, et les deux salles latérales étaient de nouveau un peu des objets délaissés de notre histoire. Il y avait une fontaine avec des poissons qui crachaient de l'eau, mais de l'eau qui allait en zigzag. C'était écrit « The End of a Dream ». Après, une très grande tapisserie que ma grand-mère nous a aidé à faire, qui a raconté l'histoire de ce voyage. Et puis après, on sort et on est éclaboussé par la lumière. C'est très, très sombre à l'intérieur. Et on est éclaboussé par la lumière du soleil. Et il y a une brume qui nous mouille un peu aussi.
entrer dans votre installation Laure Prouveau. Ce bleu profond qu'évoque le titre, vous l'avez trouvé. C'était dans la Méditerranée. Vous vous êtes fondu en elle.
Le titre a été, c'est un peu développé au niveau des dialogues et tout ça, mais c'est aussi de Marseille. Après le facteur idéal, le palais du facteur idéal, on a laissé nos chevaux. Il y avait une fanfare qui était là par hasard, qui nous a suivis, qui jouait l'Italiano Vero. Et on a marché comme ça tous ensemble vers Marseille. Et pour moi, c'est vrai que c'était ce moment de méditation, de connexion avec cette eau liquide qui touche beaucoup de nations, en tout cas les nations de la Méditerranée, et qui se mélange, qui n'a pas de frontières vraiment, à part les humains qui ont émis quelques petits points, qui a quelque chose de très fluide comme ça. Et en un moment où tous les personnages qui étaient avec nous, on était 9 à peu près là, juste un moment de méditation où on pense bien sûr à l'émigration, mais aussi au pur bleu qui nous englobe, la beauté du soleil, de l'eau qui brille, les vies, la sensation des pieds dans de l'eau froide, mais aussi bien des vies qui finissent, des catastrophes qui se passent là aussi. Donc c'était et puis cette eau, elle touche Venise. Enfin, c'est cette eau qui nous
relie. Hein.
Qui nous relie. Donc pour moi, c'était un moment clé un peu.
Un bleu profond, léger ou angoissant, c'est selon. Vous êtes vous une artiste pieuvre, Laure Prouveau, le cerveau dans vos mains, comme la pieuvre que vous évoquiez tout à l'heure, avec laquelle vous créez ces mains, pensez avec ces mains. C'est aussi ce que nous disait Jean-Luc Godard dans son livre d'images, en citant Denis de Rougemont, ressentir en touchant. C'est même peut-être la définition de l'art, si on en croit Marcel Duchamp.
J'ai toujours été frappé de la monotonie de compréhension du mot art, qui était surtout fait d'une tradition d'un siècle à l'autre ou d'un demi-siècle à l'autre, c'est-à-dire que le goût a joué beaucoup plus dans la signification du mot art que l'art, comme je le comprends, comme une chose beaucoup plus générale, une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque. Le mot art, d'ailleurs, étymologiquement, veut dire faire, simplement faire. Faire avec, si vous voulez, et presque faire avec les mains. Donc, art, c'est tout ce qui est fait avec la main, et généralement par un individu. Et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir, et l'art n'est pas une source de plaisir. C'est une source qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût. Et c'est ce qui se passe de 1850 à 1900, comprenez-vous, sans forcément avoir un intérêt quelconque, un goût quelconque.
Marcel Duchamp, 1961, ça vous convient comme définition de l'art ?
Oh oui, c'est magnifique. C'est pas de plaire, c'est de provoquer et de se questionner nos sociétés. Ça j'y crois vraiment. À tout niveau. Enfin, moi, j'aime bien si mes films ils sentent mauvais, ou si mes films ils font mal, ils fassent mal, ou si ils nous donnent une claque. Ou enfin, si on peut travailler à un niveau qui n'est pas juste mental, mais très très physique aussi. Je crois que l'art a cette force de pouvoir traduire des émotions, de plein de façons différentes, en le faisant avec un morceau de terre ou avec des pixels un côté de l'autre.
Et la vidéo, elle permet ça justement. C'est pas un médium froid pour vous ?
Moi, c'est un médium fascinant, qui est difficile à bien utiliser parce qu'il utilise beaucoup de sens. Il utilise la voix là, comme nous. Et puis il utilise aussi, mais la voix crée des visions. Enfin, je t'espère. Il utilise le mouvement. Enfin, donc mais bon, mon travail est aussi très très assez direct, assez porté vers l'idée d'un échange avec une audience. Donc des fois, souvent je ramène l'audience avec moi. Ok, let's go, we're going on a trip, and on est en Hey, so now your tentacles and we go off. So, y a, je crois que grâce à la voix d'ailleurs, je crois que beaucoup c'est dans le son, le subconscient. Je crois que j'aime bien, je suis attirée, ce qui m'importe, c'est que mes vidéos, elles deviennent une sculpture, quoi, soient physiques. Il y a quelque chose de. Et en même temps, c'est des pixels qui veulent être plus que des pixels. Il y a tout ce travail autour de ça. Voilà.
Et la vidéo, c'est en même temps le médium qui vous rattache peut-être au réel, qui permet de montrer plus que de représenter. Mmh. Il y a dans votre travail, dans toutes vos créations, une dimension qui reste très onirique et surréaliste. Le second degré, il est important aussi. Il ne vous fait pas peur, en tout cas. Peu importe si on ne comprend pas tout de suite au premier regard ce que vous avez voulu dire ou imaginer.
Non, mais non, pas du tout. Je crois que j'aime bien, bien sûr, si le travail puisse toucher d'une certaine façon ou d'une autre, mais il y a aussi, je crois que chaque personne va prendre quelque chose en soi. Je crois que chaque œuvre est tellement évolue hein, dans le temps, dans 50 ans, mon œuvre sera perçue tellement différemment. Si je la montre en Chine, elle est complètement perçue différemment parce qu'il y a la langue, il y a plein de choses culturelles, enfin, tout ça. Donc, on tient juste sur des. J'ai créé une petite situation, mais après, l'œuvre évolue et c'est tellement de vie différente. Pas si c'est vous qui la regardez ou si c'est quelqu'un d'autre, ce sera.
Chacun se l'approprie comme il veut aussi et peut.
On n'a pas le choix de toute façon en tant qu'artiste. Et c'est beau ça. J'aime bien perdre contrôle. Quoi. J'aime bien l'idée que ok, il y a une idée, puis après.
Avec le langage, c'était un peu pareil. Au départ, vous aviez perdu le contrôle, puis vous avez tenté de le reprendre à votre manière. Vous avez un rapport au langage qui était plutôt quoi ? Contrarié, vous diriez d'abord, et vous avez appris à apprivoiser le langage en créant peut-être aussi des images avec les mots. C'est de cette manière-là que vous avez réussi à vous réconcilier avec eux ?
Oui. C'est vraiment une réconciliation, parce que naturellement, c'était pas mon fort. I couldn't be a journalist. les mots me faisaient un peu peur, ou j'avais toujours l'impression de pas pouvoir bien m'exprimer avec. C'est vraiment, je crois que c'est quand j'ai atterri en Angleterre, d'un seul coup, j'avais beaucoup de distance aux mots. Je pouvais les questionner. Heat. Which heat? Ou quel, ou bien, ouais, là, mon bateau qui. Je crois que dès qu'on a cette distance avec une langue, on peut jouer avec. Et puis aussi, elle a cette. Bien sûr, les mots ont la force de créer des images. Donc, au fur et à mesure, c'est vrai que de plus. Ils m'ont fait souffrir, mais maintenant, je les utilise tout le temps.
Mais les mots, c'est aussi le territoire de l'échange avec les autres. Ouais. Ça passe aussi par ça, non ?
Ouais, complètement. Et la poésie visuelle, il peut y avoir un échange sans mots aussi, bien sûr, mais c'est un échange plus direct, c'est sûr. Je crois que c'est d'avoir la distance en revenant en France maintenant. Les mots, je les trouve de plus en plus playful, quoi.
Il y a de la poésie visuelle aussi dans cette fontaine de sang que vous avez imaginée, par exemple, pour Ring, Sing and Drink for Trespassing au Palais de Tokyo l'été dernier. Qu'est-ce que ça signifiait et symbolisait pour vous ?
Là, il y avait de l'humour, bien sûr. C'était l'idée, c'était aussi le. J'ai un peu créé. C'était une mise en scène où on était là. Est-ce que c'est un supermarché abandonné, décalé, on ne sait pas trop pourquoi il y a cette grosse fontaine plein de seins au milieu qui est à moitié, qui dégouline, il y a de l'eau qui coule partout, puis des vieux frigidaires et un peu. Et en même temps, ça parlait d'une époque, maintenant, c'est la femme, c'est une nouvelle histoire pour l'histoire de l'art, pour la femme en tout cas, ça fait 60 ans qu'on commence à avoir ce nouveau point de vue dans l'histoire de l'art, aussi bien plus globalement. Donc, je voulais faire un petit peu un petit clin d'œil sur cette présence très. Bien sûr, c'est le symbole de la femme là, qui est là, qui prend le devant quoi, un petit peu. Et puis. Après, il y a toute une histoire derrière aussi. Ça vient tout ça de mon grand-père, qui est un artiste conceptuel, minimaliste, mais qui derrière chaque ses toiles plus ou moins blanches, il y avait toujours des grosses fesses ou des gros seins, parce qu'il aimait bien ça, en fait. Et puis, donc ma grand-mère s'est réappropriée de ça et a voulu... improved it, improved, anyway, le rendre mieux. Et voilà, donc, et moi je m'y suis mis aussi, je l'ai suivi, je prends sa suite.
L'artiste plasticienne Laure Prouveau, c'est elle qui occupe actuellement le pavillon français à la Biennale de Venise. Elle est notre invitée jusqu'à midi et demi.
France Culture. La Grande Table, Olivia Jesbert.
Avec nous jusqu'à midi et demi pour l'heure, il est midi 22 sur France Culture. À Venise, on concourt aussi leur prouveau. Le palmarès de cette 58e édition a été dévoilé en ouverture de la Biennale et c'est le pavillon lituanien qui a remporté cette année le Lion d'Or pour Sun and Sea, Soleil et Mer, un opéra, installation sur le thème de l'écologie, une vingtaine de chanteurs allongés là, sur une plage, sur le sable et qui chantonnent. Plus que cela, il crie aussi au désastre climatique. Voilà pour ceux qui ont remporté cette année le palmarès. Cette question environnementale et humaniste qui est aussi très présente dans vos créations. On l'évoquait à l'instant avec ce voyage que vous avez réalisé pour la Biennale de Venise. Un autre point, celui de la mémoire, du souvenir avec vos grands-parents. Vous nous parliez de votre grand-père. C'est aussi lui qui était au cœur d'une autre installation, d'une autre œuvre, Want Tea, que vous avez réalisé en collaboration avec la Tate, en miroir de l'œuvre du peintre allemand Kurt Schwitters, l'anard du mouvement Dada. Vous avez imaginé votre grand-père creusant un tunnel. Ça symbolisait aussi cette volonté de créer des liens souterrains, des lieux de passage pour nous rassembler. Surtout dans des périodes où on est en train de se séparer.
Oui, je crois qu'on est, tous un peu... je crois que les artistes... sont tous influencés par ce qui se passe autour de nous très directement. Lina qui a fait le pavillon lituanien est une bonne amie aussi. Donc on est tous dans des je me souviens, j'avais créé une œuvre qui s'appelait Hit 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 et j'avais utilisé beaucoup de drums, de batteries et d'un seul coup j'ai eu toute une, on était tous dedans, tous les artistes aussi étaient beaucoup dans le rythme comme ça. Il y avait, je crois qu'on est, on réagit beaucoup au moment, aux situations, et forcément, je crois que c'est des sujets qui sont tellement présents, tellement importants aussi, on peut pas les ignorer. Comme j'ai eu beaucoup de moments où on me disait, tu es une femme artiste. Je dis, ah non, je suis juste une artiste. I don't want to be just une femme artiste. Mais il y a un moment où on doit prendre un petit peu position aussi, et simplement, en tout cas, soutenir cette liberté que moi j'ai eue, que je veux soutenir et qui doit grandir encore. Donc tous ces sujets, on en parle entre artistes, on se provoque les uns les autres entre là en discutant, entre, donc tout ça c'est très présent dans le travail.
Ça communique. Comme vous passez d'un support, d'une matière à l'autre, les mots que vous malaxez, mais aussi la céramique, la tapisserie, la peinture, la sculpture et bien sûr la vidéo. Le Brexit est un événement qui interpelle les artistes aujourd'hui. C'est presque malgré lui qu'il s'en est emparé. C'est ce que nous racontait le photographe Martin Parr.
Moi, je suis pro-européen. Moi, j'ai voté contre le Brexit. Je suis consterné et désormais en colère face à ce vote de mes concitoyens. Mais ce qu'il y a de bien dans toutes ces séries de photos en Grande-Bretagne, c'est qu'elles ont une vertu thérapeutique. Je t'aime moi non plus. C'est ça ma relation par rapport à la Grande-Bretagne. Et ça s'exprime par les photos chez moi. Donc ça m'aide en quelque sorte à me motiver pour prendre des photos peut-être avec encore plus de pertinence qu'avant.
Et s'interroger sur ce qu'il est, voilà ce que nous disait Martin Parr. On imagine que ça a eu aussi un effet réflexif sur vous, Laure Prouveau. Quand vous avez reçu le Turner Prize il y a quelques années, vous avez remercié la Grande-Bretagne de vous avoir adopté. Mm-hmm. Pourquoi ? Est-ce que de ce dépaysement-là, de cette adoption, est né quelque chose que vous n'auriez pas connu en restant en France, en allant travailler ailleurs?
Ça, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai mon travail artistique, surtout, a grandi là-bas. Mes grands-parents étaient là-bas aussi. Donc, il y a quelque chose de... Ils m'ont soutenu dans mes débuts. Je faisais des petites expos dans des lieux. Ils se sont intéressés à ce que je proposais, mon langage, et puis ma question sur leur langage aussi, sur leur langue et tout ça. Donc il y avait beaucoup de... Il y avait de l'humour, on sait. Et puis l'Angleterre, il y a ce côté dérision, ironie qui m'a aussi beaucoup créé et qui me...
Il y a là-bas ce brin de folie ou ce grain de folie que vous n'avez pas forcément trouvé ici et qui vous a séduite, motivée, stimulée.
Ouais, je crois que j'aime beaucoup une sorte de liberté de l'individu très forte en Angleterre. Chacun, c'est sa personne très forte et ça m'attire et ça me... Je me suis assez souvent sentie assez différente et d'un seul coup la différence était quelque chose d'assez positif. Donc il y a quelque chose qui est libératrice, mais d'être étranger partout aussi, je crois. On voit les choses avec un peu de distance et on peut jouer avec ce qui nous entoure.
Ah, c'était malin de la part de la France de vous demander de vous occuper du pavillon français à Venise. C'était une manière peut-être pour la France de vous réadopter.
Je suis un peu de partout, quoi. J'aime bien cette idée d'être un oiseau qui touche les qui vole entre les frontières et puis c'était pas forcément malin. C'était beau aussi d'être invité. C'était touchant pour moi. C'est très émotionnel parce que c'est aussi bien sûr toute une histoire qui est c'est complexe et c'est intense, mais c'était après le film tout le monde dit oh dis donc Laure, disons ton français t'as progressé là. Au bout de 6 mois je commençais à pouvoir m'exprimer de mieux en mieux, mais c'est vrai que l'anglais est devenu assez dominant avec toutes ses fautes quand je le parle, donc je suis un peu étrangère des deux côtés, mais c'est des belles aventures.
Mais vous êtes une artiste au monde aujourd'hui, c'est presque la condition de l'artiste. Et vous êtes représentée d'ailleurs dans le monde par 3 galeries, l'une à Londres et New York, l'autre à Berlin et la troisième à Paris et Bruxelles. C'est celle de Nathalie Obadia qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de la Grande Table. Merci beaucoup à vous.
Merci pour cette belle Grande Table, plein de thé.
D'être venue. Ça c'est... Ouais. Merci d'avoir imaginé en tout cas. Au revoir. Okay.